nouvelle escale dans le tour du monde de Thierry Georges. Suivez le guide, c'est tout de suite sur RCF.
Bienvenue en République tchèque.
Bienvenue à vous, Ahoy. Suivez le guide, vous invite à découvrir la République tchèque. Prague fait partie des destinations européennes touristiques majeures et il y a foule sur le pont Charles en plein été. Nous y serons enfin dans cette avant-dernière émission.
Dear passengers, welcome to Prague. Please remain seated until the fasten seatbelt signs have been switched off. And please be careful when opening the overhead bins as items may have shifted and could fall out.
Le reste de ce petit pays de 79 000 km² demeure plutôt méconnu des visiteurs étrangers. Et pourtant, les attraits touristiques sont nombreux. Nous en avons découvert quelques-uns à la fin des années 10, mais il manquait Prague. Poursuivons la session de rattrapage. Le 1er mai 2004, la République tchèque devient membre de l'Union européenne. Prague nous rappelle le printemps de Prague. Le nom de Jan Palach est connu de tous, cet étudiant en histoire qui s'est immolé par le feu, place Venceslas, le 16 janvier 1969.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
2018 marqua le centenaire de la naissance de la Tchécoslovaquie, qui fut dissoute en 1992, une dissolution surnommée « divorce de velours ». Nous sommes dans ce cinquième Suivez le guide, à la fois sur le petit côté du cœur historique. Petit côté, c'est la traduction littérale de Malastrana, un quartier fondé par le roi Ottokar II de Bohême en 1257. Nous retrouverons également, car nous fîmes connaissance dans l'émission précédente, dans le superbe café Slavia de style Art déco, connaissance d'Alek Pororski, avec qui nous parlerons architecture. Et nous serons encore dans la vieille ville et dans Prague 7 à Olechovice et Letna. Le pont Charles, côté petit côté, c'est le point de départ.
Nechte se provést Prahou. Suivez le guide à Prague.
Nous allons partir à la découverte de Prague. Je rencontre notre guide qui va nous faire découvrir une partie de Prague. Ben, je vais te demander de te présenter, mais en tchèque.
En tchèque, d'accord. Moje jméno je Jarka Nováková, Jaroslava Nováková. A pracuji v Prague City Tourism. To je organizace, která pečuje o pražské turisty.
Et donc si on donne la version française.
Alors mon nom est Jarka ou Jaroslava, le nom officiel c'est Jaroslava Nováková.
Mais tes amis t'appellent Jarka.
Oui, c'est ça. C'est vraiment diminutif de mon nom et comme ça à la maison ou bien pour mes amis, je suis Jarka. Et je travaille à l'office du tourisme de Prague, Prague City Tourism.
Nous y sommes, Jarka. Nous avons les pieds sur vraiment le sol, les pavés de la star de Prague.
Oui.
C'est la star.
C'est vrai. C'est le pont Charles. C'est-à-dire le pont dont les pierres sont très, très anciennes parce que le pont Charles avait été construit dans la seconde moitié du XIVe siècle. C'est le pont qui est le plus vieux à Prague, dont la réalisation à la période du roi Charles IV avait donné, entre autres aussi, le nom de ce pont. Auparavant, on l'avait appelé le pont en pierre.
Parce, ah oui, parce que
c'était
les autres,
c'était le seul. Non, c'était le seul pont qui avait existé. Alors Prague avait dû avoir un seul pont tous les siècles, faut-il dire, depuis 14e jusqu'au début du 19e siècle. Ce n'était qu'à 1841 que Prague avait construit deuxième pont.
Ah oui, et aujourd'hui, il y en a plein. Il y en a combien aujourd'hui?
Il y en a 18.
18? Ah, donc ils sont
il y a
finalement.
18 ponts.
Ouais. Donc ça fait même pas deux siècles finalement. Pendant tous les autres siècles, il y a eu un seul pont. Donc je suppose qu'il y avait beaucoup de monde sur le pont. Sur ce seul pont, mais aujourd'hui, il y en a, tu disais 18.
Oui.
Et ça n'a pas changé, il y a toujours beaucoup de monde sur celui-ci.
Bien sûr.
Parce que ça bouchonne.
Le pont est très attirant, parce que tout le monde, tous les touristes qui arrivent à Prague veulent, bien sûr, passer ce pont qui est tellement réputé, qui est décoré avec 30 groupes des statues. C'est-à-dire, on voit partout, en traversant le pont d'un à l'autre côté, qu'il y a vraiment des belles décorations, des statues, surtout en baroque. Mais il y a aussi, bien sûr, des autres choses qui sont intéressantes. Des petits artistes, par exemple. Au pont, aujourd'hui, arrivent des petits artistes qui sont en train de faire des choses qui offrent.
Donc c'est autorisé, des artisans, des artistes,
oui.
Un peu comme sur la place du Tertre à Paris, un peu comme à Montmartre.
Voilà,
finalement.
Ça peut être vraiment très attirant. Ouais.
Nous n'avons pas encore commencé vraiment à traverser ce pont, mais là on se retourne vers Malastrada et il y a une vue, mais alors là une richesse de bâtiments normalement facilement identifiables, richesse impressionnante puisqu'il y a la colline. Donc bon, domine tout en haut le château.
Voilà, c'est ça. Et concernant le château, c'est surtout la cathédrale Saint-Guy qui est vraiment le bâtiment le plus élevé. C'est pourquoi, alors, c'est la domination de cette vue du pont Charles. Ensuite, on y voit en face de nous les tours de Malastrana, les tours fortification et protection du pont à l'époque médiévale. On voit une vue vraiment très pittoresque parce que les deux tours qui sont plutôt médiévales, gothiques, nous font ouvrir la vue sur la coupole de l'église Saint-Nicolas avec un des clochers tout à fait intéressant de point de vue de Malastrana. On voit aussi quelques maisons dont les toits sont en couleur rouge ou vert. Et puis, on voit la colline de Petchine, ce qui est vraiment difficile à prononcer. C'est la petite tour Eiffel Ouais. Pragoise.
Le haut. Je ne sais pas comment c'est, parce qu'il y a une partie probablement cachée par les arbres. Ou c'est que le haut de la tour Eiffel?
Oui,
il y a des étages?
C'est que ça. Non. Il faut dire que la tour de cette colline Petchine à Prague est vraiment petite. Elle n'a que 60 mètres. Ah. Elle était vraiment inspirée par l'architecture de la tour Eiffel. Parce que les Tchèques, à l'époque, visitant l'exposition à Paris, ils ont choisi de construire la petite tour à Prague et ils ont choisi pour ça la colline parce qu'ils ont voulu construire une construction vraiment petite. C'était la question financière aussi, la question d'avoir suffisamment de l'argent. Alors ils ont choisi la colline, ils ont placé la tour sur la colline et comme la colline est élevée, alors il suffisait de construire 60 mètres de la construction en métal et on est au même niveau de la tour Eiffel. C'est-à-dire on est à 300 mètres.
Ah oui, c'est ça, au total. Mais tu pourrais dire, puisque c'est caché par les arbres, qu'en fait il y a plusieurs étages, on ne les voit pas de toute façon. si, c'est tout pareil. Est-ce que quand on est pragois, je ne dis pas tchèque parce qu'il y a les tchèques qui viennent à Prague, mais quand on est pragois, est-ce qu'on prend le pont Charles ou jamais?
Mais très souvent. très très souvent. Oui. Je crois que beaucoup de Pragois vraiment arrivent très très souvent au pont, parce que c'est quand même la zone piétonne, c'est un lieu qui est très sympa. C'est un lieu d'où on voit vraiment toute la ville, de tous les côtés en traversant le pont, on voit tout, tout. Pratiquement oui. Ici, tout le quartier du château et de Malastrana, même cette église de Notre-Dame de la Victoire que nous, on a pu mentionner grâce à la statuette de l'enfant Jésus de Prague, en traversant le pont.
Donc là, on a commencé la traversée.
Oui, voilà. Et en traversant le pont, on voit bien sûr les clochers de la vieille ville. On voit de deux côtés du pont aussi la rivière. Et tout ce qui est plus éloigné de ce pont, c'est-à-dire tous les différents quartiers de Prague, même ceux qui sont vraiment à plusieurs kilomètres du pont, on les voit bien, c'est-à-dire cela dépend de la journée, mais aujourd'hui, on a vraiment une vue magnifique concernant le soleil. Il n'y a pas de difficulté de voir des choses.
Je me dis, les Pragois savent qu'il y aura beaucoup de monde sur le pont. Oui. Et là encore, ça va, mais en plein mois d'août, je l'ai traversé au mois d'août, on a du mal même à avancer. Hein.
Je crois que peut-être après ces années de Covid, que Prague était une ville qui avait très souffert d'être vraiment sans visiteurs, sans touristes. Alors, ces moments encore, les Pragois supportent très bien.
La foule. La foule.
Oui, les Pragois savent très bien que les touristes aiment arriver, aiment voir la ville de Prague. Alors, pourquoi se sentir envahi? Je crois pas.
Ici, la Molda ou la
Vltava.
La Vltava est vraiment large ici. Hein. Je ne sais pas quelle est la largeur ici.
Alors,
de la Vltava.
C'est vrai que ici, la rivière de la Vltava. Voilà, peut avoir environ 300 mètres.
Ah, oui.
Et c'est vraiment large, mais il y a des points, il y a des coins de Prague où c'est beaucoup, beaucoup plus étroit, bien sûr. Mais là, nous sommes dans un coin qui est bien sympa. Parce que là, par exemple, nous avons à droite le Théâtre National, c'est-à-dire la couronne dorée du théâtre d'opéra et de ballet. À propos des théâtres, Prague actuelle offre trois théâtres d'opéra et de ballet. Tous ces trois théâtres sont historiques, sont vraiment très beaux aussi concernant de l'architecture. Et on voit le théâtre qui était connu comme le plus important, le Théâtre National, construit autour de 1883. Alors un point qui est pour des Pragois, pour des Tchèques aussi, très important.
Donc moi je suis allé hier soir voir une œuvre de Tchaïkovski, un ballet, donc Onegin, et la salle est magnifique sur trois ou quatre balcons. Et le paradis, moi j'étais au paradis tout en haut avec la vue plongeante, c'est vraiment, on a une sacrée plongée sur la salle et sur la scène, sur l'orchestre, les danseurs talentueux. Et je crois qu'il y a 1000 places à peu près. Moi, je pensais qu'il y avait plus.
Hein,
un petit peu moins, 965
oui.
places, je crois.
Voilà.
Alors que je pensais que c'était plus que ça, parce que c'est une très grande salle. Hein.
C'est bien sûr une architecture dont la réalisation, c'était au moment que la nation tchèque Tchèque commençait à prendre la force artistique, la force politique aussi, ce qui était très important. Mais de ce côté-là, on voit aussi un autre bâtiment intéressant.
Donc de l'autre côté.
Au toit vert, c'est la Philharmonie tchèque qui a son siège dans ce bâtiment.
Donc
qui
là,
s'appelle Rudolfinum. C'est au commémoire de Rodolphe, un des Habsbourg, le fils de François-Joseph Ier. C'est une grande salle de concert, mais même aussi une grande salle à exposer. C'est-à-dire, là, dans ce bâtiment, se mélangent deux activités artistiques, cette activité musicale avec une activité de la peinture et de la sculpture.
Alors, j'ai vu le ballet, là, hier, au Théâtre National. Et les opéras sont donnés où, alors ?
Les opéras...
C'est aussi au Théâtre National ?
Oui, il y a encore deux autres théâtres. À part le Théâtre National, il y a le Théâtre de Mozart, le Théâtre des États tchèques, comme on dit. Et puis, le troisième, c'est l'opéra, qui est connu comme l'opéra allemande, ou bien l'opéra de Smetana.
Smetana, qui a composé la Moldave.
Qui a composé Ma Patrie, la poème symphonique, dont une partie, c'est la Vltava.
La Vltava, Smetana.
Suite de ce Suivez le guide qui coule comme la plus longue rivière de Tchéquie, la rivière Vltava ou Moldau, 430 km de long, elle traverse Prague et se jette dans l'Elbe. Quant à Bedřich Smetana, le compositeur de la Moldau, il est né en Bohême, mort à Prague, dont la vie s'écoula une bonne partie du 19e siècle.
Nechte se provést Prahou. Suivez le guide à Prague.
On voit aussi une église à deux clochers derrière le Théâtre National. C'est le deuxième château à Prague. Parce que Prague, entre autres aussi, ce n'est pas seulement ce fameux château de Prague qui est connu, mais on a un autre siège royal qui existe à Prague et qui s'appelle Vyšehrad.
Et il n'y a aucune statistique, on ne sait pas combien de personnes empruntent le pont Charles IV par jour. Non, il y a pas, y a,
alors,
ils sont pas comptés.
Sûrement, ça existe. Je suis sûre qu'il y a une statistique qui nous fait offrir le chiffre de combien de personnes passent le pont Charles. Mais nous, on peut le compter aussi. Hein? C'est-à-dire, on peut prendre combien d'habitants il y a à Prague, 1 300 000. On peut compter tous les touristes qui arrivent à Prague à la guerre de l'année.
Normalement,
avant Covid.
Ah ouais, c'est ça, c'était...
Avant Covid, c'était environ 9 millions. 9 millions.
Et normalement,
de touristes.
Chaque touriste passe au pont. Tous les touristes.
Et tous les touristes passent au pont Charles. C'est vrai. Là, je ne doute pas du tout parce que il faut constater que le passage du pont, c'est gratuit et tout le monde veut le voir. Alors, je suis persuadée que vraiment tous les touristes passent au pont.
Ouais, alors, 9, c'est aussi avec des touristes tchèques.
Non. Là, il y a des étrangers.
Oui, hein. Non, mais il y a aussi des Tchèques.
Il y a aussi des Tchèques c'est qui ça. Arrivent, bien sûr. Alors...
Donc, au moins 10 millions par an. Allez, disons 10 millions par an. Mais
oui,
après, il y a ceux qui passent et repassent et repassent.
Le pont, c'est vraiment une promenade qui est très sympa parce qu'on y voit beaucoup de choses. On y voit, entre autres, aussi le siège de notre gouvernement tchèque. c'est le bâtiment tournant un peu à gauche, c'est-à-dire c'est la partie à la rive gauche de la rivière, et on y voit le bâtiment avec la coupole verte, et c'est notre gouvernement de la République tchèque qui a son siège.
Et le président
au château.
Ah, le président, président est au château. C'est la vie de château.
Le site officiel du président de la République tchèque, c'est le château de Prague.
Et il y vit ou c'est juste...
C'est pour travailler.
C'est pas comme à l'Élysée où habite le président.
C'est-à-dire, cela dépend. Le premier président avait vécu même le château, hein, c'est-à-dire, lui avait habité le château. Pas seulement travaillé, mais même aussi habité. Le deuxième président, après la Deuxième Guerre mondiale, lui aussi avait vivre, c'est-à-dire travaillé et habité le château. Et puis les autres, là, c'était déjà mélangé.
Václav Havel n'a pas habité au château ?
Václav Havel n'a pas habité au château. Václav Havel avait habité dans une villa qui n'était pas loin du château pendant son époque présidentielle. Mais Václav Havel avait aussi vécu, avait d'ailleurs vécu avant de devenir le président à Longueur de la Vltava. Là où on voit cette tour à la coupole, tu le vois ? Là, à gauche.
Oui.
Voilà, alors là, il y a la maison qui danse. Ah. Et la maison qui danse, c'est
ça,
une belle architecture moderne.
Oui,
une architecture réalisée juste à la fin du XXe siècle, à 1996. Et voilà, juste du côté de la maison qui danse, il y a la maison où Václav Havel avait vécu avec sa femme et pendant longtemps, mais pas... pendant son époque résidentielle.
Sur l'endroit où l'édifice de la maison dansante fut bâti dans les années 1992-96, se trouvait une maison démolie pendant un raid américain le 14 février 1945. Et c'est le projet de Vlado Milunic qui fut choisi pour être réalisé avec l'architecte et designer mondialement connu Frank Augeri. Un édifice déconstructif appelé métaphoriquement la maison dansante et aussi Ginger et Fred.
Je me dis aussi, je regardais ça, pardon, on peut aussi faire, alors je ne sais pas si on fait du canoë là, mais il y a une petite chute.
Il n'y a pas de canoë,
mais il y a une chute, donc les bateaux sont bloqués, enfin il y a une écluse, hein, sinon.
Voilà.
Il y a un moment là où il y a un niveau différent. Hein.
Voilà, bah, tu vas voir cet après-midi. S'il fait vraiment beau, alors ce côté de la rivière est plein de petits bateaux. Mais ce ne sont pas des petits bateaux, ce sont les tricks. Je ne sais pas comment le dire en français, je m'excuse. C'est un trick, tu es sur l'eau.
C'est du paddle ?
Non, pas paddle.
Pas paddle ?
Non.
C'est du pédalo ?
Non. Tu es assis dans un petit bateau et avec tes mains,
voilà.
Avec tes pieds, je vais dire. Hein.
Donc ce sont des pédalos.
Les pédalos, ouais. Voilà. Tu vois, alors dans cet après-midi, tu vas voir beaucoup de pédalos sur la rivière, sur la Vltava.
Pêche-t-on dans la Vltava ?
Aussi, mais pas ici, pas au centre de la ville. C'est plutôt dans la partie des quartiers de Prague qui sont plus éloignés du centre.
Et puis il y a les musiciens.
Ah oui, très souvent au Pont Charles.
Voilà, et ils nous ont vu arriver, ils commencent à jouer.
On aime bien le petit jazz à Prague. Il y a des gens qui arrivent même danser ici au pont parce que c'est très bon.
Je ne sais pas si c'est un vrai instrument ou plutôt des ustensiles, mais il joue sur une planche avec des fouets de cuisine, j'ai l'impression.
Ah oui, c'est ça.
Ça donne une ambiance cool. Hein.
C'est très sympa.
On n'a pas encore accueilli, mais je pense qu'un jour, ça arrivera, quand Charles III marchera sur le pont de Charles IV. Il est probablement déjà venu avant.
Le roi anglais a plusieurs fois visité Prague.
Mais il n'était pas Charles III encore.
Oui, non, pas encore. Pas comme le roi, c'est vrai. Hein. Dans sa position de prince, dans sa position de protecteur des monuments historiques, c'était grâce à cet homme que quelques jardins de Prague, les jardins au pied de château, avaient été restaurés à l'époque après la révolution de velours. Summertime Prague, when blood was warm, when blood was young.
Et là, on arrive alors à l'autre porte, puisqu'il y avait des portes de chaque côté du pont.
C'était nécessaire, parce que le pont, comme on a constaté, c'était le seul pont qui avait existé à Prague à la période médiévale. Il a fallu le protéger, hein. Il a fallu faire attention que le pont soit vraiment dans une bonne qualité de bâtiment. Et voilà, le pont avait été protégé. Et de deux côtés, on avait la tour. Et aussi, les villes avaient dû être protégées. Hein.
Donc là, on arrive dans quel quartier?
On arrive maintenant dans la vieille ville de Prague.
Dans la vieille ville. On était rive gauche, on passe rive droite.
Voilà, c'est ça.
Donc, je ne sais pas si c'est comme à Paris. Il y a des, vraiment, a... probablement, puisqu'à Paris, traditionnellement, il y a des ambiances très différentes. Quand on est rive gauche ou rive droite de la capitale, différente au niveau de l'ambiance, différente au niveau de sa population aussi, d'ailleurs.
Alors, je crois qu'ici, à Prague, c'est pas ça.
C'est pas ça.
C'est pas vraiment la grande, grande différence. Mais c'est vrai que si on le voit dans nos yeux aujourd'hui, alors Malastrana, c'est plus administratif. Hein. À Malastrana, il y a plus d'ambassades. Il y a, entre autres, aussi cette administration de parlement, de gouvernement, du château, etc. Alors, c'est vraiment la rive gauche, tandis que maintenant on est entouré par la partie de Prague qui est encore beaucoup plus ancienne, qui est importante du point de vue du développement historique et artistique aussi. On est ici à deux pas de la statue du roi Charles IV, parce que le bon Charles, le fameux Charles IV est là. Il est là comme le fondateur de l'université. Il est là comme le fondateur du pont. Il est là comme un grand roi qui avait fait construire cette tour, la tour de la vieille ville vers le pont Charles. Mais il y a une belle vue sur, ouais, sur le château, hein, et sur Prague.
Et je remarque par rapport à l'autre côté que la densité de visiteurs, de touristes, c'est encore densifié, justement augmenté. Hein.
C'est
là,
vrai,
il y a,
c'est
y a
vrai.
Encore plus de monde de ce côté-ci. Hein.
C'est vrai, parce que la vieille ville est encore peut-être plus visitée, plus demandée concernant les touristes. Malastrana, il faut flâner. Il faut flâner les ruelles de Malastrana qui montent en plus vers le château.
Ah oui.
Et les touristes, peut-être fatigués, ne le font pas à pied. Ils arrivent de l'autre côté par le tramway ou bien des bus. Tandis qu'il n'y a pas tant de monde qui monte vraiment ce quartier plus tranquille de Malastrana. Quant à nous, il nous ouvre bien maintenant la vue générale sur le château et sur les maisons au pied de château. Tandis que de l'autre côté, on voit aussi un ensemble de vieux collèges des jésuites qui s'appelle le Clementinum.
Bon, et puis ce qui frappe aussi, c'est ce qui est accroché à la façade de l'église, « Hands off Ukraine Putin ». Donc retire tes mains de l'Ukraine, Poutine.
Oui.
Avec un point d'exclamation.
Il faut dire que cette église,
et
c'est la
couleur
partie
de drapeau ukrainien.
De l'église qui appartient à l'université de Prague. C'est-à-dire, c'est un peu protégé par des étudiants. Aussi, cette église, il y a souvent à l'intérieur de cette église des discussions avec des étudiants, avec leurs profs et avec à la tête d'un prêtre connu à Prague qui s'appelle Tomáš Halík.
Vlečky šustí, opaty výstřihy, dost hambatý, pánové zvou k tanci. Vlečky šustí, opaty výstřihy, dost hambatý, pánové zvou k tanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci. Znělka zlaté uličky, moždíře a paličky, Praha v renesanci.
Si veliký en République Tchèque.
Zaveři si oči a poslouchej vzpomínky, zvoní, zvoní. U letohrádku královny Aninky bude ti šeptat do rána. Zpívající fontána, na, na, na.
Nous retrouverons Jarka pour terminer la visite de la vieille ville dans la prochaine et dernière émission.
Voyagez les yeux fermés, suivez le guide.
C'est dans la même vieille ville, à côté du Théâtre National, que se trouve le café Slavia de style Art déco. Nous y retrouvons un amoureux de Prague, mais aussi de Paris, dans une ambiance lelouchienne. C'est amusant de commencer un enregistrement à Prague avec un pianiste qui joue la musique de Francis Lai, Un homme et une femme, le film de Claude Lelouch, ici à Prague. D'abord, moi j'aimerais bien apprendre à prononcer correctement votre nom.
Oui, alors je m'appelle Aleš, c'est mon prénom.
Aleš.
Oui, et mon nom c'est Porsky.
On va s'en rendre compte au fur et à mesure que nous allons avancer dans la conversation, Aleš. Vous êtes tchèque, mais, si j'enregistre une conversation avec vous sans dire que vous êtes tchèque, personne ne va le deviner, parce que vous êtes un tchèque sans accent.
Non, j'ai de temps en temps une petite hésitation.
Mais vraiment petite, hein.
Merci, c'est gentil.
On est dans une brasserie, ici dans un café,
oui.
Un café historique de Prague, mais on serait dans une brasserie parisienne, ce ne serait pas la même ambiance, mais ce serait tout à fait crédible. Vous m'avez donné rendez-vous, Aleš, vous avez accepté ce rendez-vous, et vous m'avez donné rendez-vous près du Théâtre National. On est dans un environnement très riche sur le plan historique ici. Hein.
Exactement, mais c'est-à-dire le théâtre lui-même, c'est de la néo-renaissance, mais cela signifie aussi la renaissance de l'existence de ce pays. En réalité, c'est le renouveau de la renaissance.
Aleš, Prague, c'est votre ville. Vous êtes né à Prague, vous avez vécu pratiquement la oui. plupart du temps, hormis des séjours en France.
Si j'ose dire.
Vous avez vécu toute votre vie à Prague. Si vous deviez dire tout bêtement ce que vous aimez à Prague et pourquoi êtes-vous un amoureux vraiment de Prague?
Je suis marqué par l'histoire de l'art, par la musique d'ici. Je parle de la musique classique et de la littérature. Ça remonte toujours à la surface. Vous voyez tous ces livres que j'ai partout à la maison, que je lis et relis tout le temps. C'est la langue aussi qu'on considère belle. Ce n'est pas forcément perçu comme ça par vous, je n'en sais rien, mais nous qui la pratiquons...
C'est une langue facile.
Ce n'est pas une langue facile, oui. Il faut dire que les langues faciles sont parfois trop faciles. La complication, ça peut être la perfection aussi. Aussi. La ville n'a jamais été détruite, la ville n'a jamais été modernisée complètement. Le cœur de la ville n'a pas bougé depuis 1000 ans au moins. Vous avez toutes ces rues formidables. Vous savez, j'ai fait aussi mes études à l'histoire de l'art. On est dedans. Vous vous promenez dans les rues de Prague et quand vous êtes un peu enthousiaste, amoureux de cette ville, en profondeur. Un jour, vous apprenez par cœur toutes ces maisons, Ça m'arrive souvent. Je me promène et je sais comment s'appellent ces maisons. Je vais vous dire.
Maison Intel. Et son histoire.
Et son histoire, son style, la date de sa construction, le nom de l'architecte, etc. C'est comme une passion.
Vu le nombre de maisons et de palais à Prague, il faut une vie pour bien connaître cette ville.
Une vie, et ce n'est jamais terminé. Vous avez le quartier de Malastrana, ça s'appelle le petit côté en français.
C'est la rive gauche.
Oui, c'est les résidences aristocratiques, souvent donc de la vieille noblesse d'ici, qui possédait une résidence à Vienne, toujours l'Autriche, toujours, n'est-ce pas ? Et une deuxième résidence à Prague. Il y a ce côté-là, puis vous avez la vieille ville de l'autre rive.
Du côté où nous sommes.
Oui, du côté où nous sommes. C'est bourgeois, c'est la ville, la vieille ville, c'est-à-dire, c'est pas pareil, ce n'est pas... Le côté aristocratique n'y est plus, là, ici c'est plus démocratique, dans le sens populaire.
C'est marrant que finalement la rive gauche, c'est la rive gauche qui est plus noble et la rive droite qui est plus populaire.
Oui, ou résidentielle.
Oui. Mais par exemple, puisqu'à Paris, les intellectuels, c'est plutôt rive gauche, l'inverse.
Oui. C'est l'inverse, exactement, oui. Mais vous avez aussi la modernité, vous avez l'architecture du 20e, vous avez ce qu'on appelle le constructivisme, vous avez le style d'architecture que l'on connaît relativement peu à l'étranger, c'est-à-dire le cubisme dans l'architecture. Ce n'est pas seulement la peinture, c'est aussi d'ailleurs la sculpture. Nous avons quelques sculpteurs cubistes, notamment certains Gutfreund. C'est la sculpture cubiste et aussi l'architecture cubiste.
Gutfreund, c'est son nom ?
C'est son nom.
Gutfreund,
oui.
Ça veut dire « bon ami ».
Oui, oui.
Otto Bonami.
Oui, par exemple, oui. C'était considéré comme presque un style d'ici. Ça s'épouse bien avec le baroque. Moitié baroque, moitié cubiste. Vous avez l'Art Nouveau, un nom que vous connaissez jusqu'à chez vous, c'est-à-dire Alphonse Mucha, je ne sais pas si vous prononcez comme ça, ou le style Sarah Bernard, mettons 1900, etc. Ici, ça s'appelle la Sécession. En France, ça s'appelle l'Art Nouveau. Et en Allemagne, ça s'appelle plutôt le Stil.
Voilà, le Jugendstil.
Jugendstil, exactement. Un des centres de ce style, de cet Art Nouveau, des années 1900, mettons, 1890, 1910, c'est le style d'ici. Et puis, petit à petit, qui est remplacé par le cubisme. Et ensuite, vous avez le style constructiviste. Tout cela se rencontre.
Se côtoie, je veux dire.
Se côtoie, c'est mieux, oui. Côtoie, oui.
Et ça, c'est, diriez-vous, assez unique, finalement ?
C'est très unique. Évidemment, nous n'avons pas le monopole de tout ça, évidemment. Mais, il y a relativement peu de boulevards larges. Vous avez la place Venceslas, qui est comme un boulevard. Et puis, quelques rues assez larges. Et puis, partout autour, c'est relativement homogène. L'architecture cubiste ou déjà avant néoclassique, etc., etc., tout se rencontre, tout se interpénètre jusqu'à nos jours, après tout, oui.
Určitě nejsem sportovní typ. Papuče s dýmkou sluší mi líp. Pod vrstvou sádla ztrácí se kost. Při koupi prádla zmítá mnou zlost. Určitě nejsem sportovní typ. Obtíže velké.
Et c'est le relief aussi de la ville. Le fait que c'est vraiment pas la plaine. Ce n'est pas plat.
Ouais, c'est ça. Prague n'est pas plat. On monte, on descend. Hein.
On monte et on descend. Ouais. Partout. Ouais. Partout. Avec la rivière au milieu.
Avec la...
Qui n'est pas un fleuve.
Qui n'est pas un fleuve puisqu'elle se jette dans l'Elbe.
Elle se jette dans l'Elbe.
Moi, je dis la Moldave, mais on dit la...
La Vltava.
Vltava. Vltava.
C'est d'ailleurs un mot celte, paraît-il. En réalité, on a parlé des Slaves et des Germains, Allemands, quoi. Mais il paraît que nous sommes surtout celtes. Ça vous surprend peut-être. Il y avait une tribu celtique.
Qui s'était installée ici?
Oui, c'était les Boyens. Alors, le mot bohème vient de cette langue-là qu'on ne comprend plus aujourd'hui, comme la Bavière, Bayern en allemand. C'est également le pays des Boyens, c'est-à-dire de ces Celtes.
Ouais, donc, ils étaient partout, alors, finalement, les Celtes.
Ils étaient partout, oui. Donc, oui, oui. Donc tout ça se rencontre, tout ça se croise ici.
Et c'est probablement ce qui, alors, sur un plan architectural, vraiment fait le charme de Prague.
Le relief, l'histoire, la continuité, en dépit de tout. Le fait que tout est conservé. Cette ville n'a jamais été vraiment bombardée, par exemple. Parfois, c'est délabré, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus restauré.
Il y a encore des bâtiments à restaurer, mais bien sûr, de moins en moins.
De moins en moins.
De moins en moins.
Je vous conseille de voir aussi les maisons constructivistes des années 1920, par là, ou même un peu avant, dans le style pur et simple. Vous avez peut-être entendu parler de la Villa Tugendhat, qui ne se trouve pas à Prague. C'est la simplicité absolue. Aujourd'hui, ces maisons, ces villas se visitent de plus en plus. Les étrangers se déplacent uniquement pour voir ces maisons. La Villa Müller, par exemple, à Prague.
Complétons l'info. La Villa Tugendhat, achevée en 1930, est située à Brno, à 200 km au sud-est de Prague. C'est un exemple de construction fonctionnaliste réalisée pour Grete et Fritz Tugendhat, juifs qui durent fuir le pays en 1938. Réfugiés en Suisse puis au Venezuela, ils s'installèrent après la guerre définitivement en Suisse. Leurs descendants tenteront sans succès de faire valoir une spoliation. Quant à la Villa Müller, à Prague, elle date de la même période, construite en béton armé et en briques.
On comprend bien, Lèche, que vous n'êtes pas prêt d'être lassé de Prague.
Non, jamais. Non, s'il vous plaît. Non, non, non. Vous pouvez vous reposer comme nous maintenant, dans ce café, en écoutant la musique, le piano. Et voilà, tout est
bon. On parle des cafés viennois, mais là, on est dans un café de Prague qui mérite qu'on s'y arrête. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, des cafés de pragois comme les cafés viennois, mais ici, ça me fait penser
entre
un peu à
les
ça.
Deux, ouais. Vous êtes un peu à Vienne et un peu à Paris. Assez peu en Allemagne, curieusement. Peut-être un peu à la Bavière, mais pas trop. Un peu de néo-renaissance en face, vous voyez. C'est l'Italie. On ne parle pas assez de l'Italie, mais vous savez, le petit côté, Malastrana, ça monte au château, la rue principale s'appelle la rue d'Italie. Il y avait des centaines d'ouvriers, et il y avait des architectes, etc., des peintres italiens, des artistes. Vous avez aussi le Rococo, il y a Mozart, n'oubliez pas, Don Giovanni, etc.
Donc, créé à Prague.
Créé à Prague. L'idée que nous avons, c'est l'idée du carrefour.
On est au centre de l'Europe, donc Europe centrale, le centre de l'Europe, ville de rencontre. Hein.
C'est-à-dire en France, quand mes amis m'expliquent ou utilisent le mot l'Europe de l'Est, j'avoue que ça me fait un peu mal parce que je n'ai pas l'impression. Pour moi, l'Europe de l'Est, ce n'est pas ça.
Elle est plus à l'Est.
Surtout, c'est une autre religion. C'est l'orthodoxie, alors qu'ici, c'était toujours catholique et protestant. Point. Et c'est fini. Hein. Il n'y avait pas d'influence ni balkanique, ni russe, à part quelques exceptions de déplacement de certains artistes, compositeurs, par exemple, russes. Mais pour tout dire, non, la culture de ce pays n'a pas été marquée par ce que vous appelez l'Orient.
Donc on est à l'est de la France, un peu à l'est, pas très loin finalement, mais pas en Europe de l'Est.
Après tout, si vous allez de Paris à Prague, ça vous fait à peu près 1000 km, un tout petit peu plus, alors que la distance entre Paris et Nice, c'est à plus ou moins la même distance. Autrement dit, nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin. On se comprend.
Ouais. Co děláš ty, dělám i já. Co děláš ty, dělám i já. A všechno okolo se snad jen zdá. A všechno okolo se snad jen zdá.
Quittons Aleš pour retrouver une dernière fois Miroslava, notre guide dans le quartier de Prague 7, le nouveau quartier branché de Holešovice, dont j'ai eu beaucoup de mal, vous l'entendrez, à mémoriser le nom.
Nechte se provést Prahou. Suivez le guide à Prague.
Dobrý den, já se jmenuji Mirka Eliášová a vítám vás v Praze 7, v Holešovicích a na Letné, abych vás provedla těmito čtvrtěmi. Soyez le bienvenu ici à Prague, le quartier municipal Prague 7. Je m'appelle Miroslava ou Mirka Eliášová a j'aimerais bien vous montrer et parler un peu de quartier Holešovice et Letná, qui sont les quartiers artistiques émergents et d'intérêt pour les gens qui s'intéressent à l'art et aux choses nouvelles qu'on peut montrer hors le commun à Prague.
Nous regardons Miroslava, une façade. Finalement, on affiche sur les façades, il y a ces peintures, enfin, ces fresques, on affiche son identité sur la façade.
Oui, par exemple,
je pense pour protester,
que
par exemple.
C'est le roi Jiří de Poděbrady. Ce sont les bâtiments avant de la Première Guerre mondiale. On faisait encore partie de l'Autriche, mais on voulait
affirmer son
identité nationale. Check. Ce n'était pas encore sûr, l'identité nationale, qu'on va avoir notre État. Qui soit seulement oui. Notre. Alors, ils ont cherché beaucoup l'inspiration, se sont appuyés aux personnages de l'histoire tchèque pour se séparer des Autrichiens.
Et des Autrichiens, l'Empire laissait faire, n'interdisait pas.
À l'époque, plus. C'était vraiment au début du XXe siècle. Peut-être la situation soit différente au XIXe siècle encore, mais après, ils ont laissé les choses.
Et toi, tu habites alors dans quelle partie de Prague?
J'habite à Jeporie. Ici, nous sommes à Prague 7. J'habite à Prague 13. C'est vers l'aéroport. C'était un village qui était rejointre avec Prague dans les années 70. Mmh. Alors, il y a plusieurs maisons des années 20, 30, des familles avec les jardins à côté. Et après, il y a la construction nouvelle. Avec trois étages, quatre étages, avec les jardins à côté. Jeporie est aussi connu par son maire, Novotný, qui est aimé et haï, ça dépend, par les gens, parce que, par exemple, il est à faveur de la légalisation de marijuana pour tout le monde, et comme ça. Alors, j'ai parlé avec le monsieur qui a une voiture dans ce quartier, il m'a dit que le maire s'est approché à sa voiture et il a voulu être ramené à quelques lieux, mais n'a pas voulu l'accepter parce qu'il n'aime pas cette maire. Mais je connais des gens qui peut-être ne prennent même la drogue, mais ils quand même pourraient penser que ça pourrait être une chose bon, peut-être, pour l'excès, la drogue, comme marijuana, douce.
Nous sommes dans le tram, Miroslava, et qu'est-ce qu'on fait? Il faut...
On doit marquer le billet, il y a cette petite machine jaune, tu dois le mettre dedans.
On compose le billet.
Ici, il y a la flèche, comme ça.
Et maintenant, c'est fini pour 3 jours.
C'est fini pour toi, je dois cette billet pour 3 jours, oui. Voilà. Il y a aussi le billet pour une journée seulement. Il y a aussi le billet pour, je pense, une heure ou demi-heure.
Il y a beaucoup de contrôles? Il y a souvent des contrôles?
On doit dire oui. Parfois pas, mais c'est, on ne sait jamais. Les contrôles, je dirais, sont surtout dans les principaux stations de métro.
Et en principe, les Tchèques sont honnêtes et ont un billet.
La plupart, oui. Ici, on va descendre. On doit descendre déjà à cette...
On descend déjà?
Ce serait mieux qu'on a descendu là.
Bon, ok.
Ici, il y a la station.
Mais on a fait un tout petit trajet. Hein.
Et après, on va prendre une autre. Ici, parce que j'ai des amis qui sont aussi historiens d'art et qui s'intéressent beaucoup pour l'histoire. J'ai un ami qui aime beaucoup l'histoire des Moyen-Âge. Il n'aime pas beaucoup l'art moderne, etc. Il m'a parlé ici, il y a l'église. Qui est parmi les plus anciennes églises à Prague, c'est l'église romane. Ta ulice kostelní svatý Saint-Clément.
Saint-Clément. Ok. Nous arrivons donc dans cet autre quartier, puisqu'on découvre deux quartiers, mais là on va faire une visite un peu plus rapide, dans cet autre quartier qui pour le coup est... Alors on a vu des travaux ailleurs, mais là c'est vraiment ce quartier-ci, c'est un quartier en vraie mutation. Hein.
Oui, on reconstruit beaucoup. Nous sommes déjà dans le quartier Holešovice.
Holešovice,
dans ce quartier de port de Holešovice. Nous sommes vraiment très à côté du fleuve Moldau, Vltava. Et nous sommes dans le territoire de l'ancien abattoir. On peut aussi voir la statue de deux taureaux qui a servi comme la porte principale pour les gens qui ont venu ici pour acheter de viande à l'abattoir. Mm-hmm. L'abattoir n'existe plus, mais dans le pavillon ancien, maintenant, il y a tout type de négoces, soit tchèques, je pense aussi, il y a des restos peut-être des gens de Vietnam, des gens de la Chine, où il y a des petites scènes de théâtre.
C'est un quartier alternatif, vraiment, ici, on peut dire ça?
Oui, je dirais que c'est un quartier alternatif. Aussi, il y a beaucoup d'espaces entre les... maison.
Donc, alors, on ne retrouve pas les grands beaux immeubles chics, ce n'est pas ça du tout ici, hein. C'est un quartier populaire.
C'était le quartier ouvrière.
Ouvrier. Donc, on n'a pas abattu l'abattoir et on a un quartier qui devient un quartier branché.
Je ne connais pas le mot branché.
Branché, ça veut dire à la mode.
Ah, maintenant, oui. Holešovice, Letná aussi, mais Holešovice, maintenant, on le vit. La transformation, c'est ici. On vient ici un jour, on vient ici l'autre jour, et peut-être on trouve que les choses ont changé, il y a quelque chose émergente. C'est alors, ici des... où il y a la vie en transformation.
Là, il y a les terrasses, le soleil n'a pas brillé toute la journée, mais là, maintenant, c'est une belle fin de journée. J'ai J'ai l'impression que c'est une population, en tout cas celle qui vient, qui passe ici, une population plutôt jeune. Hein?
Oui, ce sont les gens jeunes et je dirais ce sont les gens alternatifs qui vraiment aiment bien de vivre ici, de travailler ici, d'organiser ici des soirées, de la lecture, des poésies. C'était ici à Holešovice, on a organisé le marché des livres anarchistes.
Ah, le marché des livres anarchistes.
C'était bon. Aussi ici. Mmh.
Si on compare avec les quartiers qu'on a cités au début de notre enregistrement, le quartier de la ville vieille, du château de Prague, du pont Charles, on n'imagine même pas, si on arrive ici directement, on ne pense même pas qu'on est à Prague. Hein.
Oui, parfois j'ai l'impression que je suis peut-être à Brno ou à Ostrava, que ce sont pour moi les villes plutôt industrielles et plus tchèques. Peut-être. Je me suis bien à l'aise ici.
C'est un quartier cool.
J'aime beaucoup. Ça a l'air. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Mm-hmm. Ici, pour parler avec les gens, pour venir à parler avec les gens ici ne sont pas autant froides, peut-être pas autant sérieux. Ils veulent te parler, ils veulent te aider. Je me sens bien à l'aise ici.
Yo.
Yo. C'est ça. Les Tchèques utilisent, je l'utilise ce mot yo beaucoup quand je veux commencer
c'est
à dire quelque
ponctuation,
chose.
Ponctuation finalement.
Yo. Et, ou bien tac, ça veut dire c'est comme ça. Et ça veut dire en polonais oui. Ouais, parce que
oui, tac, ça veut dire oui en
ça
polonais.
Ça veut dire polonais et en tchèque, ça veut dire comme ça.
Comme ça.
Autre manière, comme dire sérieusement oui en tchèque, c'est ano. Ano, ne, oui et non. Mais quand on va dire spontanément oui, on dit yo. Je le peux confirmer parce que je parle plusieurs langues.
Oui, alors tu parles plein de langues.
Je parle plusieurs langues. J'ai vécu à Catalogne.
Donc tu parles l'espagnol, tu parles le catalan.
Je parle le catalan même. Je peux parler en catalan si vous voulez. Ou l'occitan, j'aime beaucoup. Mais je parle aussi un peu français.
Et allemand?
Je parle allemand assez bien. L'anglais, je parle portugais brésilien. Je parle
portugais brésilien. Avec l'accent de Rio.
Oui, j'ai appris mon portugais aussi des chansons brésiliennes, mais aussi j'ai une professeure privée de Brésil. Et j'aime beaucoup les langues qui viennent du latin et l'allemand.
Et le roumain, est-ce que tu parles roumain? Parce que le roumain, c'est une langue finalement latine, le roumain.
Je ne le parle pas, je sais dire plusieurs mots, mais c'est vrai que j'ai le livre Le Petit Prince de Saint-Exupéry en roumain.
Parce que quand on est français et qu'on voyage en Roumanie, on comprend quelques mots quand même.
Oui, hein? Oui. Et j'ai participé à un festival le jour de Roumanie il y a un an, au début de juillet. Et j'ai parlé avec plusieurs gens de Roumanie qui habitent à Prague. Je me suis rendu compte que déjà je pourrais faire un petit pas et la langue romane, ça soit dans ma poche.
Une de plus. Yo, tak.
Yo, tak je to. C'est comme ça.
Do nebe tyčí se stovka věží, doprava stojí, když lehce sněží. Jo, u nás v Praze je sice draze, ale skvěle. A když tě to neba, tak si třeba domů hele.
Miroslava, on se quitte, alors rappelle-nous. Moi, j'ai encore pas retenu le nom de ce quartier. Hein.
Holešovice.
Holešovice.
Holešovice, oui. On a mangé très bien.
On a fait une pause, on a bu une bière, on a mangé.
On est très contente. Je pense que la quartier Holešovice va laisser un bon souvenir aussi dans votre cœur.
C'est ça, donc c'est un autre Prague, vraiment. Hein. Donc loin des sites, pas très loin géographiquement, mais dans une ambiance totalement différente, des sites très touristiques, mais qu'il faut aller voir aussi. Donc il faut vraiment ne pas se contenter d'un seul aspect de Prague.
Je suis totalement d'accord avec toi. Venez à Holešovice, venez à découvrir l'Etna, Prague 7. C'est vraiment deux, trois stations plus loin de tram que le pont Charles. C'est authentique.
Voilà, il y a moins de monde au mètre carré. Hein. Děkuji.
Já taky děkuju.
Děkuji ou děkuji?
Děkuji.
Děkuji.
C'est formal. Et après, on dit děkuji avec la ou. Au final, c'est informel.
Děkuji. Alors, děkuji, formel.
Děkuji, formel. Děkuji.
Informel.
Informel.
Děkuji.
Děkuji. Já taky děkuju.
Fin de ce Suivez le Guide à Prague. Děkuji, donc informel, Jarka, Jaroslava Novakova, Miroslava Eliášová et Aleš Porský. Suivez le Guide à Prague, organisé par l'Office national tchèque de tourisme à Paris. Grand děkuji, Barbara Herman.
Není zač, de rien.
Merci Michel Louillot pour le contact avec Aleš. Des guides conseillés, le petit futé République tchèque et Prague. Réalisation Roman Feocchio du site internet tchèquetourisme.com.
Brzy na viděnou v České republice.
Dans un instant, ouvrez le dialogue avec Sarah Brunel.
Une question qui nous concerne tous aujourd'hui sur RCF, la question de la présence de Dieu, de son action, de la providence et de la liberté de l'homme. C'est ce que nous allons décrypter avec Rémi Brague, philosophe, lauréat du Grand Prix catholique de littérature 2024.